Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Je n'ai aucun petit secret à vous donner qui va vous propulser de la hauteur 0,01 à la hauteur 10 000 du jour au lendemain. Ça, les gens qui vous offrent ce genre de choses sont des menteurs. Il y a des temps de croissance et la croissance ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est à vous de reprendre ces enseignements, de lire, de relire vos notes, de regarder, de prier par rapport à ça, de vouloir pratiquer la parole jusqu'à temps que ces choses produisent en vous. Ça, c'est quelque chose qui est très important, sur lequel j'insiste largement. Nous en sommes dans la 16e loi, la loi du mouvement. Et je vous rappelle que nous avons vu le premier principe de cette loi, c'est le mouvement en avant est un des meilleurs amis du leader. Je vous rappelle que ces cours sur les 21 lois du leadership, ce n'est pas moi qui les fais, ça vient de John Maxwell qui a enseigné beaucoup et qui enseigne beaucoup sur le leadership, et je lui donne le crédit, je vous le rappelle. Le premier principe, c'est le mouvement en avant est un des meilleurs amis du leader. Je vous rappelle que c'est au leader de faire bouger les choses. Le leader doit amener l'organisation à aller plus loin, l'église à aller plus loin, la société à aller plus loin, l'association à aller plus loin. Partout où vous êtes leader, c'est à vous de faire bouger les choses. Ce n'est pas aux suiveurs de faire bouger les choses. Les suiveurs ne feront pas bouger les choses. C'est à vous de le faire en tant que leader. Et à partir du moment où vous ne bougez pas, vous ne pourrez jamais changer de direction si jamais vous avez pris une mauvaise direction ou que Dieu vous dirige dans tel ou tel endroit. Okay? Donc c'est à vous de faire bouger les choses, que toujours ce que vous dirigez bouge. C'est à vous de le faire. Alors, nous avons vu le deuxième principe, le grand principe, c'est le mouvement qui fait souvent la différence entre la victoire et la défaite. Et Salomon, lui, c'était quelqu'un qui savait faire bouger les choses constamment. Je vous ai montré les quatre rois d'Israël, les quatre premiers rois d'Israël. Il y en a un qui était statique, c'était Saül. Il n'a jamais su mettre Israël en mouvement. Le deuxième, c'était David, qui lui a mis Israël en mouvement et qui a fait d'Israël une nation. Le troisième, c'est Salomon, et Salomon a accéléré le mouvement et a entretenu le mouvement en Israël, jusqu'à temps qu'Israël devienne la nation la plus grande, la plus puissante du monde de l'époque. La plus riche, la plus prospère, la mieux organisée, parce que Salomon a utilisé un certain nombre de clés. Et ensuite, nous avons vu que Roboam, lui, il a mis les deux pieds sur le frein. C'est vrai qu'à la fin du règne de Salomon, Israël était en mauvaise posture parce que Salomon avait amené de l'idolâtrie. Salomon avait vraiment des problèmes au niveau de sa sexualité. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de femmes, beaucoup de concubines, et ses femmes et ses concubines étaient des étrangères. La loi de Moïse lui interdisait d'avoir ça, et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené l'idolâtrie. Ses femmes ont amené l'idolâtrie en Israël, donc la malédiction de la loi a commencé à venir sur Israël. Roboam prend la suite, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie à fond sur le frein avec les deux pieds. Alors, je vous ai montré, troisième principe, que savoir faire bouger les choses est un excellent don pour un leader. Mais pour cela, nous avons vu que Salomon a utilisé des clés. Il a commencé avec l'héritage que son père lui avait laissé, là où son père était. Et ça, c'est bon, quand vous prenez la succession, la suite d'un leader, il faut savoir où est-ce qu'il en est. Il faut savoir évaluer les choses. Ensuite, il a demandé la sagesse. Je vous rappelle que l'important, ce n'est pas le résultat. Ne vous focalisez pas sur les résultats. Focalisez-vous sur les mentalités qui vont produire. C'est ça la différence. C'est ça l'erreur que beaucoup font, c'est-à-dire qu'ils produisent ils essaient de produire les fruits sans avoir les mentalités. C'est pas possible. La mentalité et la façon de faire de Dieu amènera la vie de Dieu dans tes situations, donc amènera la production. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça commence par la mentalité. Tu ne peux pas produire si tu ne changes pas ta mentalité, si tu ne fonctionnes pas comment Dieu fonctionne, si tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne. Ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Ils veulent les résultats, mais ils ne veulent pas changer leur mentalité. Ils ne veulent pas commencer par le commencement. Alors, Salomon, lui, il a commencé par la sagesse, parce qu'il a vu que c'était un grand peuple à diriger. Et il a dit à Dieu, moi, je suis encore un gamin. J'ai absolument besoin que tu me donnes de la sagesse. Et Dieu lui a dit, parce que tu as demandé la sagesse, que tu ne demandes pas la destruction de tes ennemis, que tu ne demandes pas les richesses pour toi-même, eh bien, je vais te donner la sagesse, et à partir de cela, tu vas avoir tout le reste. Tout le reste. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Salomon. Salomon a reçu la sagesse divine, et il a produit le reste. C'est pas compliqué. Ne commencez pas par le fruit. Tu n'auras pas de fruit s'il n'y a pas de bon arbre. Il n'y a pas de fruit s'il n'y a pas la vie qui passe. Voilà, d'abord commence par le commencement. Si tu vois aujourd'hui que tu es assez improductif, que rien ne bouge dans ta vie, commence par changer tes mentalités. Ensuite, il a pris de sages décisions, et on a vu ça lui a amené de la crédibilité. Ensuite, il a créé un environnement de paix. C'est important pour un leader, un environnement de paix. Et ensuite, il s'est entouré de sages personnes, de personnes qui allaient l'aider dans son leadership. Maintenant, quatrième grand principe. Quatrième grand principe, notez que le mouvement ne s'entretient pas de lui-même. Et là aussi, il faut que vous fassiez attention. Quand vous avez commencé à mettre en mouvement une organisation, vous avez impulsé une organisation, eh bien, il va falloir que vous continuez constamment, faire un effort constant. Vous savez, c'est comme une roue de vélo. Si vous retournez votre vélo, hein, vous le mettez sans dessus-dessous, c'est-à-dire vous mettez la selle par terre avec le guidon, et que vous donnez une impulsion sur la roue avant, comme ça. Ouf. Qu'est-ce qui va se passer? La roue va commencer à tourner, mais si vous enlevez votre main et que vous attendez, qu'est-ce qui va se passer? La roue, au bout d'un moment, va freiner et va s'arrêter. Si vous voulez qu'elle tourne constamment, eh bien, vous allez donner une impulsion. C'est la même chose quand vous pédalez. Si vous donnez des grands coups de pédale, vous allez accélérer votre vélo jusqu'à temps d'obtenir une certaine vitesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous arrêtez de pédaler, ben, le vélo, au bout d'un moment, il va commencer à s'arrêter. Le mouvement va commencer à s'arrêter. Donc, quand vous êtes leader, c'est bien d'amener les choses en mouvement, mais il va falloir constamment entretenir ce mouvement. Il va falloir entretenir ce mouvement. C'est-à-dire que constamment, il va falloir faire un certain nombre de choses, avoir une certaine mentalité pour continuer le mouvement. Et ça, c'est le job du leader. Ça va être votre job de constamment entretenir le mouvement. Et il y a trois points sensibles pour qu'un mouvement soit entretenu. Numéro un, il faut endosser la responsabilité du mouvement. Ça veut dire que le leader ne doit pas se plaindre et accuser les autres quand les choses n'avancent pas. Ça, c'est le problème de beaucoup de leaders. Ils sont là. Donc, vous endossez la responsabilité du mouvement. Il y a beaucoup de leaders, quand les choses n'avancent pas, ils se tournent vers les gens qui sont proches d'eux en disant « Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne faites pas avancer les choses ?» Vous voyez? Et ils commencent à se plaindre envers les gens qui sont dans leur entourage en les accusant que ça ne bouge pas et que c'est de leur faute. Non, tu dois, en tant que leader, pour entretenir le mouvement, endosser la responsabilité. Si les choses n'avancent pas, c'est toi et toi seul qui dois endosser la responsabilité. Ensuite, la deuxième chose, c'est avoir la volonté de diriger le mouvement et de ne pas se laisser emporter par le mouvement. C'est-à-dire que c'est toujours toi qui dois diriger là où le bateau doit aller. Faites très attention à ça. Salomon constamment initiait des choses et amenait le mouvement, mais dirigeait le mouvement là où il voulait qu'Israël aille. Ça, c'est important. Quand tu es leader, tu dois avoir des objectifs, tu dois te fixer des temps, des moments où tu vas réaliser ces objectifs, tu dois être un bon navigateur, regarder les phases de ces objectifs, mais c'est toujours toi qui dirige le mouvement. Tu ne dois pas te laisser embarquer par un courant ou par un autre. Vous savez, par exemple, il y a des pasteurs qui fonctionnent avec des modes. Parce qu'un autre pasteur ou parce que X pasteurs ont fait ça dans leurs églises, alors on se dit « Ah, comme ça marche, moi je vais faire ça dans mon église ». Ça, c'est pas diriger le mouvement, c'est subir le mouvement. Ça, c'est pas être, écoutez bien ce que je vais vous dire, ce n'est pas être une voix, c'est être un écho. La différence entre une voix et un écho. Jean-Baptiste était une voix dans le désert. C'est lui qui dirigeait Israël vers la repentance parce qu'il avait reçu cette mission. Il y a beaucoup de gens qui sont des échos, vous savez. Ils entendent un truc à droite, à gauche, et qu'est-ce qu'ils font? Ils le répètent comme des perroquets. Et en fait, ce sont simplement des échos. Et des fois, c'est des trucs qui ont l'air de marcher. Mais attention, faites très attention de ne pas être un écho. Sois une voix. Écoute ce que le Seigneur te dit de faire, fais-le, et fais avancer les choses comme le Seigneur te montre de le faire. Ne sois pas un écho. Quelqu'un qui fait parce que les autres font. Donc tu te laisses embarquer dans une mouvance. Ce n'est pas comme ça. Tu dois entrer dans la mouvance et tirer ton organisation là où elle doit être tirée. C'est important. Et la diriger là où tu sais que le Seigneur veut que tu diriges ton organisation. Vous avez beaucoup, beaucoup de moments quand vous êtes leader où il y aura des pressions gigantesques sur vous. Gigantesque sur vous pour vous diriger d'un côté ou d'un autre. Et vous devez résister. Des fois, vous devez aller à contre-courant. Alors que tout le monde vous dira, non, c'est pas comme ça que tu dois faire. Et tu sais, parce que le Seigneur t'a montré clairement que tu dois faire bouger dans cette direction ton église, ton organisation, etc., ta société, etc., etc., etc. Et tu le fais, et c'est là où ça marche. Tu le fais, et c'est là où ça marche. Mais ça te coûtera. Et c'est vraiment ta volonté. Tu dois être clair. Ensuite, troisième chose que tu dois faire, c'est que tu dois rester toujours dans une excitation de la vision. Ça doit être constant, ça doit brûler. Ta vision doit brûler en toi, l'excitation de la vision. Tu dois toujours, toi, le leader, être enflammé pour ta vision. Quand un leader est je dirais, plus très motivé pour sa vision, là, le bateau va s'arrêter très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il n'impulse plus de mouvement. Et il n'entretient plus le mouvement. Ça s'arrête très facilement. Et là, il y a trois choses à faire. Trois choses à faire. Il faut toujours considérer que la mission que le Seigneur t'a donnée est d'une importance capitale. C'est numéro un. Ça doit rester une priorité. La priorité, c'est la mission que le Seigneur t'a donnée. Considérer que la mission que le Seigneur t'a donnée, c'est vraiment la priorité. C'est l'importance capitale dans ta vie. Tu vis pour ça. Numéro deux, créer un entourage d'excellence. Deuxième petit point ici, sur le troisième point. Créer un entourage d'excellence. Et ensuite, s'attendre aux meilleurs résultats. Parce que si vous fonctionnez dans des mentalités chroniques d'échec, il y a des leaders, ils ont cette mentalité chronique d'échec et ils ne font rien avancer. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. C'est à toi de constamment impulser l'organisation dont tu as la tête, que ce soit une église, que ce soit un business, que ce soit une association, que ce soit n'importe quoi que tu fais ou tes leaders, c'est à toi de constamment impulser cette organisation vers l'avant et dans la bonne direction. Et pour ça, tu dois prendre toutes ces responsabilités. Cinquième et dernier grand point, donc sur cette loi, notez qu'un bon leader entretient le mouvement. Un bon leader entretient le mouvement, un grand leader développe le mouvement. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est bien d'entretenir le mouvement, mais c'est mieux de le développer. Et là, ça dépend de la carrure de ton leadership. Tu développes le mouvement, tu l'entretiens bien, mais il y a un moment où tu dois aller dans les hauteurs. Et il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir pour développer le mouvement. Numéro un, il y a cinq choses que vous devez pratiquer régulièrement si vous voulez développer le mouvement dans votre organisation. Numéro un, de comprendre la valeur du mouvement. Faire bouger les choses, vous en comprenez la valeur. Si tu ne comprends pas la valeur du mouvement, tu vas laisser cette loi de côté. Et puis, de temps en temps, ça bouge, de temps en temps, tu es statique, de temps en temps, tu recules. Après, tu vas bouger beaucoup plus, etc., etc., etc. C'est pas bon. Parce que sur une grande distance... Sur une grande longueur de temps, tu vas faire une petite distance finalement. Alors que Dieu t'aura appelé à faire une grande distance. Mais malheureusement, tu auras fait bouger les choses d'un côté, après tu auras reculé ou tu te seras stoppé pendant un certain temps. Tu dois bien connaître la valeur du mouvement, donc de cette loi. Numéro 2, identifier les facteurs qui motivent les gens. Ça, il faut savoir les repérer et les former. Donc tu repères, tu formes les gens. Et tu les motives un maximum. Et ça, c'est l'art du leadership, motiver les gens. Quand les gens sont passionnés pour ce que tu fais, ils vont t'aider. Et là, le mouvement va s'amplifier très sérieusement. Numéro 3, enlever tout ce qui démotive les gens. Enlever tout ce qui démotive les gens. Les gens négatifs, il y a deux types de personnes qui freinent les mouvements dans les organisations. Deux types de personnes qui freinent les mouvements dans une organisation. Ce sont les gens négatifs, c'est-à-dire constamment, qui parlent négativement, qui n'ont pas de foi, qui voient tout en noir, qui ne voient pas d'avenir. Donc les gens négatifs, donc deux types de personnes qui freinent le mouvement dans une organisation, que ce soit dans une église, que ce soit dans un business, que ce soit n'importe où. Et aussi les gens qui vivent dans un passé idyllique, c'est-à-dire un passé où c'était extraordinaire et ils ont envie de recréer ce passé. Ils regrettent ce passé, ils vivent dans le passé. Donc les gens qui vivent dans un passé idyllique. Idyllique, ça s'écrit I-D-Y, et avec deux L aussi. I-D-Y, deux L, I-Q-E. Et il y a pas mal de gens qui sont comme ça, qui vivent dans un passé. À l'époque, c'était si bien, c'était comme ceci, comme cela. Et là, ils voient les choses, ils disent, bof, maintenant, on ne pourra plus vivre. Oui, c'était bien. À l'époque, on voyait plein de guérisons. À l'époque, on voyait plein de gens se convertir. À l'époque. Vous voyez, ils sont comme ça. Et ça, ce sont des gens qui freinent constamment les organisations, et surtout les églises. C'est bien, il y a eu des belles victoires à l'époque, mais on est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui? Où est-ce qu'on va? C'est ça qui est important. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vivent comme ça. Moi, je me souviens, quand j'étais dans les églises de Pentecôte en France, il n'y avait que des gens avec les cheveux blancs qui nous racontaient ce qui s'était passé avec le frère Scott qui avait amené le réveil 40 ans plus tôt. Alors, on se disait, c'est bien, mais nous, on n'a pas eu de chance, on n'est pas nés dans cette époque-là. Ils vous racontaient tout le temps, les vieux pentecôtistes français, ils vous racontaient tout le temps comment le frère Scott priait pour les gens, que les malades étaient guéris, blablabla. On disait, oui, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait plus rien qui se passait. Les gens étaient complètement endormis spirituellement. Alors, quand vous vous convertissez, que vous avez le feu de Dieu et que vous êtes autour de gens qui sont des pompiers spirituels, qui éteignent le feu de partout, c'est difficile d'évoluer parmi ces gens-là. Vous voyez? Et c'est dommage, c'était des gens qui vivaient constamment dans ce passé. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce mouvement de Pentecôte en France, c'est très endormi. Là, il y a une partie qui commence à bouger, mais c'est très récent. En tout cas, dans les époques où nous sommes convertis, il y a plus de 30 ans, eh bien, on voyait vraiment des gens qui vivaient dans ce passé idyllique. Et plus rien n'avançait. Les églises étaient petites ou elles avaient atteint une certaine taille et ça ne bougeait plus. Ça ne bougeait absolument plus. C'est dommage. Vous voyez? Numéro 4, prévoyez des temps de direction et de célébration. Prévoyez des temps de direction et de célébration. C'est bien d'avoir bossé, d'avoir fait avancer les choses, mais il y a un temps où on célèbre. Ça, c'est important. Dans toute organisation, quand nous avons remporté des batailles, il faut faire des bons repas et rigoler ensemble. Passer un temps sympathique. Maintenant, quand tu es dans la défaite, ne fais pas trop ça souvent, parce que sinon ta défaite va se terminer en chaos. Numéro 5, pratiquer le leadership selon le caractère. On a parlé du caractère. Selon le caractère divin. Et faites ce qui est juste. Vos convictions. Marchez dans vos convictions. Donc, pratiquez le leadership avec un caractère divin. Je vous ai dit, les gens vous testeront, mes frères et sœurs. Vous serez jaugés, jugés, déjaugés, rejaugés, surjaugés avant que les gens vous suivent et vous fassent confiance. Ah oui, et c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce qu'ils ont aussi le Saint-Esprit en eux. Si t'es quelqu'un qui agit sur les impulsions, sur les modes, oui, c'est vrai, les gens vont te suivre pendant un certain temps, ils vont croire dans tout ce que tu vas leur annoncer, mais quand ils vont s'apercevoir que tu les as trompés, ils te feront pas de cadeau. Et ça, c'est normal. C'est normal. Rappelez-vous, Dieu fonctionne avec des principes, donc des lois, mais il fonctionne avec des valeurs. C'est les deux choses qui vont ensemble. Un bon leader comprend ces deux aspects. Il comprend les lois. Celui qui ne comprend pas les lois et qui a des bonnes valeurs, il ne réussira pas. Celui qui comprend les lois et qui n'a pas de bonnes valeurs, il va avoir un semblant de réussite et il va se casser la figure. Des fois, ce n'est pas tout de suite. Vous savez, il y a des gens, parfois, ils montent très haut. Ils impressionnent beaucoup. Ils impactent, entre guillemets. Ils ont l'air d'impacter beaucoup de gens. Mais finalement, quand tu les vois sur la course de 10 ans, 20 ans, c'est là où tu vois les vrais fruits. Ce n'est pas sur le moment. Vous savez, des fois, il y a des leaders qui sont en plein succès, tous les gens applaudissent, disent « Ah, c'est extraordinaire, d'accord. » Maintenant, il va être pleinement testé, ce leader. Et dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est pas évident, vous savez. Vous savez, dans le leadership, c'est pas facile de ce côté-là. Parce que si tu vas dans une certaine hauteur, Si tu as mis un bateau en mouvement très rapidement, si d'un seul coup tout est freiné, les gens vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on freine? Pourquoi est-ce que c'est plus comme avant, etc. Vous voyez? Ou alors, pourquoi est-ce qu'on nous a dit ça et qu'il n'y a rien qui s'est accompli par rapport à ça? Vous voyez? Donc, il faut faire très, très attention. Je vous dis, ce n'est pas facile. Ça demande un réel engagement d'être un leader, surtout nous qui sommes dans le ministère. Ah, le ministère prendra tout de nous, de A jusqu'à Z. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le ministère, c'est se tenir avec un micro et prêcher. Ils ont tort. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est ce que tu vois, la partie apparente de l'iceberg. Mais il y a tout le reste en dessous. Il y a tout le reste en dessous que toi, tu dois gérer, que les gens ne verront pas avec leurs yeux, mais qui transparaîtront au fur et à mesure. 17e loi, la loi des priorités en ordre. 17e loi, la loi des priorités en ordre. Numéro 1, premier principe sur la loi des priorités en ordre, notez que les bons leaders savent que l'agitation n'est pas synonyme d'accomplissement. Les bons leaders savent que l'agitation n'est pas synonyme d'accomplissement. Les bons leaders savent que l'agitation n'est pas synonyme d'accomplissement. Je vous garantis, en tant que leader, il y a une chose que vous devez apprendre à gérer, c'est vos priorités. Vos priorités. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit venir en premier? Sur quoi tu dois te focaliser en premier? Qu'est-ce qui est le plus important? Non pas selon toi, forcément, mais selon la vision que le Seigneur t'a donnée. Il y a beaucoup de leaders qui se noient ou qui tombent malades. Des gens qui ont des problèmes, qui ont des attaques cardiaques, qui ont des problèmes de maladie qui viennent alors qu'ils ont 40, 50, 60 ans, et ils vieillissent, vous savez, comme les pommes qui sont toutes rassies au bout d'un moment, vous savez, la peau est toute craquée. Les gens, ils ont l'air d'avoir 20 ans de plus que ce qu'ils ont. Non, la Bible nous dit clairement que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces spirituelles, mentales et physiques. Il y a des lois pour vivre longtemps sur cette terre. Encore faut-il savoir se gérer, parce que tu es le gérant de ta vie. En tant que leader aussi, tu es le gérant de ta vie et tu es le gérant de la vision que le Seigneur t'a donnée. Et il y a des leaders, ils ne savent pas se gérer. Ils ne savent pas gérer leurs priorités. Et ils tombent dans un système où finalement ils vont s'épuiser, ils s'écroulent d'épuisement. Je connais un leader récemment, quelqu'un qui vraiment avait un avenir ultra brillant en Europe. Signe, prodige et miracle. Vraiment, il produisait beaucoup. Il est tombé dans une dépression nerveuse. Terrible. Et là, ça fait 2 ou 3 ans qu'il n'arrive pas à en sortir. Ce n'est pas le premier cas dans le corps de Christ. Il y en a d'autres, ils meurent prématurément. Ils partent trop jeunes. Dieu ne t'appelle pas à partir trop jeune, parce que les meilleures années que tu as en leadership, c'est les années où tu marches dans la maturité. Ce n'est pas les années où tu es en train de monter comme un malade et que tu souffres comme un malade parce que tu n'as pas encore percé. C'est là où réellement tu es dans un temps où tu as énormément d'influence, où tu as compris, ton caractère est bien forgé. C'est là où tu es le plus productif. Mais si tu es là le plus productif, dans des temps où tu devrais être le plus productif, il y a des saisons dans la vie d'un homme. Il y a des saisons dans la vie d'un homme. Il y a des moments où tu vas durement construire ta vie et ça va être difficile. Tu vas commencer à percer, tu vas commencer à t'établir, etc. etc. Mais il y a un moment où tu as gagné en expertise sur les choses divines, sur ta vision. Que tu n'es plus là en train de te bagarrer parce qu'il te faut de l'argent pour construire ton église, parce que tu n'arrives pas encore à bien payer tes employés, parce que les gens ne te suivent pas, parce que pourtant tu as un bon message, mais ils ont encore du mal à croire à ta vision, etc., etc., parce que tu n'as pas suffisamment évangélisé, etc. Tout ça, c'est fini, tout ça, c'est bon, tout ça, tu es dans la maturité. Rien n'est un problème pour toi aujourd'hui, tu es pleinement dans ta vision, tu produis pleinement. Mais pour produire, il faut être en forme, pour continuer à produire. Et il y a beaucoup de gens qui ne se managent pas et surtout qui ne managent pas leurs priorités. Et ça, c'est le piège de beaucoup de leaders, savoir manager ses priorités. Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse? Terrible. Heureusement que Dieu lui a envoyé Jéthro et Jéthro lui a dit, si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser, tu vas mourir, entre guillemets. Et Moïse a vu une Jéthro a vu une chose, que Moïse avait un problème de leadership. Et il lui a dit, non, il faut que tu délègues. Tu vas complètement bousiller ta vie avec ça, tu vas jamais t'en sortir. Mais c'est normal, il ne pouvait pas conseiller 2 millions de personnes, c'est impossible. Et après, il a remis des priorités en ordre. Et c'est important. Quand tu fais des choses. Quand tu accomplis une vision, il va falloir gérer tes priorités. Il va falloir que tu saches te gérer. Il faut que tu saches gérer ton corps. Il faut que tu saches gérer tes temps de prière. Il faut que tu saches gérer les gens aussi. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir gérer. Tu dois savoir gérer les finances. Tu dois fonctionner par priorité. Si tu ne sais pas le faire, tu risques de te retrouver par terre beaucoup plus vite que tu ne le penses. Et il y a des prédicateurs qui ont été complètement diminués physiquement parce qu'ils ont abusé leur corps pendant des années. Des gens qui dormaient très peu. Il y a l'histoire d'un homme, de Dieu, qui s'appelait Jack Coe, qui à l'époque était, entre 1948 et 1958, aux États-Unis, il y a eu un immense réveil de guérison. Il y a eu plein de prédicateurs qui avaient des tentes, qui réunissaient des foules gigantesques, et ils voyaient des miracles et des choses les plus incroyables. Et Jack Coe était un de ces évangélistes qui vraiment vivait des choses extraordinaires de la part de Dieu. Les boiteux marchaient, les paralysés sortaient de leur fauteuil roulant, les aveugles voyaient, les sourds. Vraiment, il avait des résultats gigantesques, comme pas mal de ces prédicateurs-là. Mais Jack Coe, il est mort à l'âge de 36 ans. Et cet homme, les gens disaient de lui qu'il avait le corps usé comme un homme de 90 ans. C'est ce que les gens ont dit. Hein. C'est ce qui est marqué dans sa biographie. Pourquoi ? Parce que c'était un homme qui se couchait à des heures pas possibles, après les réunions, qui mangeait n'importe comment après les réunions, parce que quand tu fais 4 ou 5 heures des réunions, et qu'après, l'onction n'est plus sur toi, tu te reposes un peu, mais ton corps, là, d'un seul coup, il sent le poids de ce qui s'est passé, de toute la fatigue. Et il mangeait d'une façon désordonnée, il était devenu très gros, et il était complètement désordonné dans son corps. Des gens venaient le déranger à l'hôtel, priez pour moi, n'importe quelle heure, etc., etc. Et il a vu une onction, il priait, il y avait des résultats, mais le problème, c'est que cet homme est mort prématurément. C'est parmi les exemples. Savoir manager ses priorités, c'est quelque chose qui est important. Et vous avez parfois des gens qui sont loin très fortement, ils sont comme emportés dans une spirale. Parce que tous les gens, surtout les ministères de guérison, je dois dire que les ministères de guérison, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des ministères de guérison, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte la responsabilité et là le fardeau réel que ça représente. Parce que les gens veulent absolument qu'on prie pour eux, parce qu'ils sont en train de mourir, parce qu'ils ont des maladies graves. Ils se disent, il faut absolument que ce serviteur prie pour moi. Et ils font tout. Ils font tout pour accéder au serviteur de Dieu. Le problème, c'est que le serviteur de Dieu, c'est aussi un homme. Et il a besoin de se manager. Et les bons leaders font toujours attention à gérer leurs priorités. Tu ne peux pas, dans le leadership, te permettre d'arriver à un seuil où tu négliges tes priorités. Il faut faire extrêmement attention. Donc la plus grande réussite, notez que la plus grande réussite vient quand vous arrivez à vous focaliser, et à focaliser vos gens sur ce qui est important. Pierre a dû faire cela. Notez, deuxième grand principe, Pierre et la loi des priorités en ordre. Pierre va vivre plusieurs choses à propos des priorités en ordre. On n'a pas trop le temps de lire beaucoup de textes, mais vous pourrez lire Actes chapitre 1, Actes chapitre 2 et Actes chapitre 6. Vous savez, quand Pierre a rencontré Jésus, ses priorités ont changé. D'abord, Pierre était pêcheur de poissons, et après il a tout laissé, et sa priorité c'est devenu qui ? Le Seigneur Jésus. Il a suivi le Seigneur. Ses priorités ont changé. Il a mis ce qui devait venir en premier dans sa vie, il l'a mis en premier. Mais il y a un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est de s'activer plutôt que de produire. Ça, c'est un piège. S'activer plutôt que de produire. Les priorités en ordre, c'est toujours une bénédiction de Dieu. Si tu le fais, tu seras toujours béni par Dieu. Si tu ne le fais pas, tu risques de te retrouver rapidement en dehors de la volonté de Dieu et avec des ennuis sérieux que tu as provoqués. La plupart des ennuis que nous avons, c'est nous-mêmes qui les provoquons. Si tu découvres ça, ça va beaucoup t'aider. Je suis là pour t'aider, je ne suis pas là pour te condamner. La plupart des ennuis que nous rencontrons, nous les provoquons. C'est vrai qu'il y a des attaques diaboliques, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont parfois méchants, mais tu ne les rencontreras pas 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça va arriver de temps en temps dans ta vie, oui. Mais si tu dis que c'est tout le temps ça, non. Le problème, c'est encore toi. Réfléchis bien. La plupart des ennuis, par exemple, si tu as des histoires avec quelqu'un, pourquoi tu es rentré dans cette relation avec cette personne? Pose-toi la question. Oui, il me fait des histoires, blablabla, blablabla. Je dis, ok, mais pourquoi? Vous vous êtes rencontrés dans quel contexte? Oh, bien, on s'est envoyé des SMS, et puis un jour on s'est rencontrés, blablabla. Oh, d'accord. Mais la relation, la porte ouverte à la relation, c'est qui? C'est toi? Oui, c'est toi. C'est toi qui as permis que cette personne vienne dans ta vie. Vous voyez? Souvent, on ne fait pas attention. Et après, on se retrouve dans des ennuis. Et particulièrement dans les priorités, c'est ce qui se passe. Pierre a fait attention à gérer ses priorités. Alors, regardez un petit peu. D'abord, numéro un, à la Pentecôte, Pierre a attendu. Jésus leur avait dit, attendez. Restez à Jérusalem et vous serez baptisés de l'Esprit. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Mais pour l'instant, restez à Jérusalem. La priorité, c'était quoi? Avant la Pentecôte, c'était de rester à Jérusalem. Jusqu'à temps de quoi? D'être revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous voyez, il y a des gens, parfois, ils rentrent dans le ministère par erreur. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui se mettent eux-mêmes dans le ministère et ils font cette erreur-là. Ils n'attendent pas que Dieu les oigne de leur esprit, de son esprit, pardon. Souvent, les gens rentrent trop tôt dans le ministère et ils font un Ismaël. Ils sentent un appel, mais ils n'attendent pas, ils ne se préparent pas et ils foncent dans le ministère à la première opportunité et ils se plantent. Parce qu'il y a l'appel et la mise à part. L'appel, ça ne dépend pas de toi, c'est la souveraineté de Dieu. La mise à part, c'est comment toi tu vas te préparer. Parce qu'entre l'appel et la mise à part, il y a la préparation. Et après, tu es revêtu de l'onction divine, qui est une action de Dieu, qui n'est pas une action des hommes ou d'autres serviteurs de Dieu, mais qui est une action divine dans ta vie. Pierre a su attendre le revêtement de l'onction. Ensuite, quand il a été persécuté par les Juifs, il a mis la priorité sur la prédication de l'Évangile. Les Juifs avaient dit, non, on vous interdit de prêcher dans ce nom-là. Et Pierre a dit quoi? Il a dit, jugez vous-même s'il est préférable qu'on obéisse à qui? Aux hommes ou à Dieu? La priorité de Pierre, c'était quoi? D'obéir à qui? À Dieu. Priorité. Vous voyez? Ensuite, quand les veuves sont venues se plaindre, vous vous rappelez l'histoire des veuves, des Hébreux et les veuves des Grecs. Les veuves des Grecs, elles étaient venues, elles disaient, mais non, nous on a moins que les veuves des Hébreux. Et Pierre, lui, il a dû prendre une décision. Dans Actes chapitre 6, vous pourrez lire ça, Pierre va dire, jugez vous-même s'il est convenable qu'on serve aux tables et qu'on délaisse la parole de Dieu. Elle dit, non, hein. On ne peut pas tout faire. Maintenant, ça a grossi, beaucoup de gens sont touchés, ok? On ne peut pas à la fois servir aux tables et à la fois prêcher et se préparer, ce n'est pas possible. Donc, ils ont nommé qui? Ils ont nommé des diacres, ils ont délégué. C'était encore une priorité en ordre. Pierre aurait pu perdre son temps, parce que là, ça aurait été une perte de temps, à aller servir les gens aux tables, à faire tout un tas de tâches. Tu ne peux pas être au four et au moulin. Un jour, j'ai rencontré comme ça une directrice d'une école. Et cette dame, c'était une brave dame, c'était à l'école française, à Bujumbura. Et cette dame, à chaque fois qu'on la rencontrait, elle était comme ça en train de faire... On avait l'impression qu'elle avait 50 000 choses à faire. Vous savez, quand quelqu'un dit, j'ai pas de temps, j'ai pas pu te téléphoner parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas de temps, je suis trop occupé. Vous savez, il y a des gens qui aiment se faire montrer comme s'ils étaient super, ultra, super occupés. Fais attention à ça. Quand tu as ce discours-là, soit c'est parce que tu ne manages pas tes priorités, ou soit parce que tu es un gros menteur et tu essaies de te faire passer pour quelqu'un de super spirituel alors que tu ne l'es pas du tout. Non, tu as du temps pour tes priorités. Les gens qui disent « j'ai pas une minute à moi », ils ont un problème. Et cette dame, c'était comme ça. Alors cette dame, elle était en train de diriger, de recevoir des parents, et puis juste avant, elle avait déballé des cartons, alors qu'elle avait du staff pour faire ça. Vous voyez, des gens qui font tout, qui veulent tout faire en même temps. Ça, c'est des gens qui ont souvent un esprit de contrôle ou qui sont désorganisés. Vous découvrirez que l'ordre à l'extérieur qui est dans votre vie dépend de l'ordre qu'il y a à l'intérieur en vous. Non, vous n'avez pas saisi là. Ok, je répète. L'ordre ou le désordre à l'extérieur de votre vie que vous vivez, c'est le reflet de l'ordre ou du désordre intérieur. C'est tout. Si tu gères mal tes priorités, ça veut dire que tu es désordonné quelque part. Tu es désordonné et tu manifestes ça à l'extérieur. Donc ta vie est désordonnée. Ta vie n'a pas de priorité. Tu es là, tu commences le matin n'importe comment, tu continues dans la journée, etc. Et puis à la fin de la journée, qu'est-ce que tu as accompli? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu as accompli à la fin de la journée? Il y a des gens qui s'agitent dans tous les sens et qui n'accomplissent strictement rien. Pierre a su faire ça. Notez que mettre en ordre ses priorités, c'est d'abord une mentalité d'excellence. Mettre en ordre ses priorités, c'est d'abord une mentalité d'excellence. Parce que vous savez, en tant que leader, il y a plein d'opportunités. Vous êtes là, vous êtes en train de faire quelque chose et vous avez 10 personnes qui détournent votre attention sur ce que vous êtes en train de faire. Nous, les leaders, souvent, c'est notre cas. Pasteur, il faut que je vous voie absolument tout de suite. Oui, mais attends, est-ce que ça, c'est une priorité? Oui, mais il faut absolument. Et puis, tu reçois la personne et elle te raconte des trucs qu'elle aurait pu te raconter pendant les heures de rendez-vous. Mais vous ne pouvez pas savoir combien, nous, les pasteurs, on est dérangés si on laisse les portes ouvertes. C'est incroyable. Et ça, c'est un manque de gestion de notre part de priorité. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre un sas qui s'appelle une secrétaire. Moi, par exemple, à la fin des cultes, quand quelqu'un vient me voir, parce que je salue un maximum de gens à la fin des cultes, dans mon église, j'essaye de serrer la main des gens, discuter, rigoler avec eux, même si j'ai prêché, même si je transpire, je m'en fous, j'y vais parce que c'est une opportunité de rencontrer les gens. Et souvent, il y a des gens qui disent « Ah, pasteur, il faudrait que je vous voie tout ça ». Immédiatement, je leur dis « Appelez le secrétariat, je reçois le mercredi matin et le vendredi matin ». C'est-à-dire, vous restez disponible, mais vous gérez vos priorités. Vous voyez ? Être disponible, c'est important. Un pasteur, je vous ai dit, ne doit pas vivre sur une tour et dire « ça c'est le peuple et ça c'est moi le roi ». Ça, très mauvais. Mais d'un autre côté, il ne peut pas être épuisé à être au four et au moulin en même temps. Quand il se focalise sur quelque chose parce que c'est une priorité, il ne peut pas être constamment dérangé au téléphone, etc. etc. parce qu'au bout d'un moment, tu n'arrives plus à te focaliser sur ce que tu dois faire. Donc, tu t'agites, tu te fatigues pour rien en tant que leader. Et tu vieillis vite. Je vous dis, il y a des gens à 30 ans, ils sont déjà vieux. Moi, j'en ai 50 et je suis encore jeune. Parce que je suis d'abord aussi jeune dans ma tête. C'est important, frères et sœurs, se manager. Manager ses priorités. Accomplir, mais être efficace. Pas s'agiter quelque part. Ça, je vous dis que c'est le problème de beaucoup de gens. Et le désordre que tu vis à l'extérieur, si tes journées, tu les finis, tu es complètement mort de fatigue, c'est que tu as un problème. Tu ne vas pas durer longtemps comme ça. À la fin de tes journées, c'est vrai, tu as dû bosser, mais tu as dû accomplir des choses, mais tu ne dois pas être épuisé. Parce que si tu es épuisé et que le lendemain, tu dois te lever tôt et que ça a une autre journée d'épuisement, au bout d'un moment, ton corps va en subir les conséquences. Il va en subir les conséquences. Alors que si tu as une mentalité d'excellence, tu vas mettre à l'intérieur de toi de l'ordre. Et tu vas gérer tes priorités en ordre. Ça, c'est important. Troisième grand principe, les leaders voient tout, mais ils se focalisent sur le plus important. Les leaders voient tout, mais ils se focalisent sur ce qui est le plus important. Ça, c'est l'art du leadership, les priorités en ordre. Se focaliser sur le plus important. Le leader voit, t'en fais pas, il a vu. C'est son don de voir les choses. En tout cas, un bon leader, il voit tout. Maintenant, il ne va pas se noyer dans un verre d'eau. Il ne va pas décider de faire 1000 trucs en même temps. Parce qu'il ne peut pas et il le sait. La Bible nous dit, dans Éphésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps. Apprenez à utiliser le temps. Que le temps ne soit pas votre ennemi. Quand quelqu'un dit « J'aimerais que tous les jours, il y ait 40 heures dans la journée », c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses priorités. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a donné 24 heures. Et s'il nous a donné 24 heures, ce n'est pas pour rien. Et tu dois apprendre à gérer ton temps et tes priorités avec ces 24 heures et à être productif pour sa gloire. Mais pour cela, il va falloir que tu saches comment te focaliser sur le plus important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en leadership pour se focaliser sur le plus important? D'abord, déterminer la légitimité d'un besoin ou du besoin qu'on vous présente. Déterminer la légitimité du besoin. Parce qu'un leader, un bon leader, il sait toujours quand il faut agir et il trouve rapidement des solutions. Mais il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire. c'est terrible. Nous défocaliser. Donc là, il faut que tu sois sensible. Si tu vois que le besoin est légitime, là, tu fais attention. Tu prêtes attention et tu vas le régler en priorité. Mais il y a des choses qui peuvent attendre. Il y a des choses qui peuvent attendre. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui viennent à nous en tant que pasteurs et il leur faut tout et tout de suite. Et ce n'est pas normal. Et un leader doit se protéger. Un leader doit mettre une barrière légitime. Je vous dis, il ne doit pas fermer la porte. Il doit avoir des portes ouvertes. Il doit avoir des jours et des heures de rendez-vous. Mais il ne peut pas se faire déranger à n'importe quel moment, n'importe comment. Parce que s'il fait ça, franchement, il va se défocaliser. Il va s'épuiser. Et ça pourra mal tourner. Parfois, il y a des leaders qui perdent leur famille avec ça. Parce qu'ils sont tout le temps partis. Et ils ne gèrent pas leurs priorités. Et tu dois être à la maison. Un gars qui est parti du jour, du matin jusqu'au soir, surtout s'il a des enfants en bas âge. Maintenant, tes enfants, s'ils sont grands, qu'ils sont indépendants, tout ça, tu ne vas pas être là en train de les attendre à la maison. Ça, c'est autre chose. Mais surtout quand ils sont dans un âge où ils ont besoin de papa et de maman, tu dois être là. Tu dois t'arranger pour être là. Il y a des gens, par exemple, ils mettent leur maison à 20 ou 30 kilomètres de l'église. Ce n'est pas bon de faire ça. Si tu exerces un ministère, il faut que tu sois proche de l'église. Comme ça, quand tu quittes l'église, en 5 minutes, tu es chez toi. 10 minutes, tu es chez toi. C'est bon, ça va. Et ça te permet d'être chez toi rapidement, sans être obligé de te dire, je vais être à l'église là, je vais terminer à telle heure, et j'ai encore une heure et demie de route. C'est trop long. La priorité, tant que... Moi, par exemple, j'ai habité proche de l'école française parce qu'on avait les enfants régulièrement à l'école française. C'était un choix, c'était une priorité de me dire, je veux que mes gamins soient proches. Même s'ils ont besoin de rentrer à pied, qu'ils puissent le faire. Si j'ai besoin d'envoyer un chauffeur ou que moi-même, j'en ai pour 2 minutes, même pas. J'habite à 800 mètres de l'école française. J'aurais pu louer une bien meilleure maison ailleurs, beaucoup plus belle, dans un quartier périphérique, mais je ne voulais pas parce que je voulais être proche. J'estimais que c'était une priorité pour ne pas être dérangé justement. Le temps, c'est le temps. Le temps, chacun, nous avons le même capital temps, vous avez remarqué. Je pense que les secondes sont les mêmes partout sur toute la Terre. Maintenant, la façon dont tu vas gérer ce temps par rapport à tes priorités, c'est toi qui décides. Tu es le gestionnaire de ta vie. Tu dois faire attention à un certain nombre de choses qui vont finalement bouffer tes priorités. Alors regarde si le besoin est légitime. S'il n'est pas légitime ou s'il peut attendre, tu le places un peu plus loin, tout simplement. Ensuite, tu cherches une opportunité du leadership. Quand il y a un besoin légitime, donc chercher l'opportunité du leadership. Si quelqu'un d'autre peut faire le job, donne-le à quelqu'un d'autre. Donc quand tu vois un besoin, il est légitime, qu'est-ce que tu fais ? Tu repères une personne, si tu vois que ce n'est pas toi qui dois t'occuper de ça, tu dis à quelqu'un, bah écoute, voilà, il y a telle personne qui a tel ou tel problème à résoudre, etc. Occupe-toi-en. Comme ça, tu lui délègues. Donc la délégation à ce moment-là. Quand tu peux le faire. Tu ne peux pas tout faire. Vous vous rappelez de Moïse ? Jéthro lui a donné un conseil ultra sage qui a sauvé sa vie à Moïse. De l'épuisement. Il lui a dit, toi, occupe-toi des affaires importantes. Les autres... ils vont s'en occuper. Tu délègues des gens qui vont s'occuper des autres affaires. Vous voyez ? Ensuite, déléguer la tâche dans les mains de gens compétents. Numéro 3. Déléguer la tâche dans les mains de gens compétents. Déléguer la tâche dans les mains de gens compétents. Donc numéro 1, c'était déterminer la légitimité du besoin. Quand vous voyez la légitimité du besoin, numéro 2, vous cherchez quelqu'un, donc l'opportunité de leadership, vous... cherchez quelqu'un à qui vous allez donner cela. Ce n'est pas vous qui allez gérer ça parce que vous avez d'autres priorités à gérer. Ensuite, vous déléguez la tâche dans les mains de gens compétents pour que vous soyez sûr que cette priorité qui n'est pas une priorité pour vous mais qui est une priorité pour la personne qui a besoin de quelque chose, ça soit fait, ça soit mis dans les mains de gens compétents qui vont amener un résultat quelque part. Ensuite, numéro 4, confirmez publiquement ceux à qui vous avez délégué des priorités. Confirmez publiquement ceux à qui vous avez délégué les priorités. J'assure, les priorités en leadership, c'est vraiment un truc qu'il faut savoir gérer. Vraiment quelque chose qu'il faut savoir gérer. Quatrième grand principe. Notez que les bons leaders investissent leur temps dans ce qui est le plus productif. Les bons leaders investissent leur temps dans ce qui est le plus productif. Proverbe 24, 27. Les bons leaders investissent leur temps dans ce qui est le plus productif. Proverbe 24-27 nous dit « Soigne ton ouvrage au dehors, organise ton champ, ensuite tu bâtiras ta maison. » Vous voyez, quand vous voyez dans la Bible des « ensuite », »,« d'abord », »,« ensuite », souvent on parle de priorité. Ok ? Proverbe 24, verset 27, je vous le lis simplement, pas besoin d'y aller. « Soigne ton ouvrage en dehors », numéro 1. « Organise ton champ », numéro 2. « Ensuite, tu bâtiras ta maison ». En d'autres termes, un jour j'avais enseigné sur les finances à propos de ça. D'abord la production, ensuite la construction. Si tu te mets dans les dettes en premier, tu risques d'avoir des histoires après. Si tu ne produis pas, si tu n'as pas créé des unités de production, des sources de production, si tu n'as pas diversifié tes sources de revenus. Là aussi, il y a beaucoup d'enseignements à faire là-dessus. Il y a des priorités. Là, dans les finances, il y a des priorités. Il y a des gens, tout ce qu'ils gagnent, ils dépensent. Ils ne veulent jamais mettre de côté parce qu'ils veulent toujours avoir un train de vie qui monte. Leur priorité, c'est de montrer combien ils gagnent d'argent. La vraie prospérité, c'est une parenthèse, n'est pas le montant de ton salaire. La vraie prospérité, c'est ce que tu mets de côté tous les mois. Ah, vous n'avez pas entendu encore. La vraie prospérité, ce n'est pas ce que tu gagnes tous les mois. La vraie prospérité, c'est ce que tu es capable. C'est le potentiel financier qui te reste à la fin du mois. Parce que si tout ce qui rentre sort, ça veut dire que tu n'es pas prospère. Ça veut dire que tu es pourvu. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre être pourvu et prospère. Être pourvu, ça veut dire que tes besoins sont rencontrés. Être prospère, ça veut dire qu'il y a un différentiel entre ce qui sort et ce qui rentre. Et il y a malheureusement beaucoup de gens qui tombent dans ce piège. Beaucoup de chrétiens, le jour où ils gagnent un plus gros salaire, la première chose qu'ils font, c'est s'acheter une grosse bagnole, louer une belle maison et sortir au restaurant tout le temps. Le problème, c'est que tu as un contrat qui va durer 2 ans. Et au bout de tes 2 ans, tu n'as pas mis un franc ou un dollar de côté. Et quand ton contrat s'arrête, tu retombes en bas. C'est classique ça, on le voit, c'est très classique, c'est la chair. C'est un nom, ça s'appelle la chair, tout le monde dit la chair. Voilà. Ça c'est manquer de gérer ses priorités. Vous savez, dans beaucoup de domaines, nous sommes gestionnaires, frères et sœurs, de notre vie. Tout ce que tu fais, tu en es le gestionnaire. Bon gestionnaire ou très mauvais gestionnaire ou gestionnaire moyen, c'est ton business. Tu es responsable de ce que tu fais. Arrête de dire, ah Dieu, ah le diable, ah là là, un tel, là là. Non, non, c'est toi. C'est toi. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Alors, un bon leader sait qu'il doit apprendre la chose suivante. Il doit apprendre non pas à travailler dur, mais il doit apprendre à travailler intelligemment. Un bon leader sait qu'il doit apprendre non pas à travailler dur, mais à travailler intelligemment. Donc, apprends à travailler intelligemment. C'est-à-dire, là où tu fournis un effort qui va produire le plus, c'est tout. Pour un même effort, regarde ta productivité. Travailler intelligemment, c'est pour un même effort, essayer de produire le plus possible. Vous savez, il y a des gens qui travaillent très dur. Par exemple, les gens qui vont au marché, là, qui portent des sacs, qui courent après les taxis, je pense que c'est comme ça ici. Quand il y a des marchandises qui arrivent de l'intérieur, nous, à Bujumbura, il y a 10 types qui courent après les taxis autour du marché pour être les premiers pour porter les sacs. Le 50 kilos, etc., etc. Ces gens travaillent dur. On les voit d'ailleurs, ils sont marqués par le travail. Et ils gagnent quasiment rien. Ça, c'est travailler dur, mais c'est pas travailler intelligemment. Il y a des choses, souvent, qui te montreront dans ta productivité comment apprendre à travailler intelligemment. Ça, c'est la mentalité d'excellence. C'est de travailler intelligemment. C'est-à-dire, tu mets ton énergie, tu focalises ton énergie sur les priorités et c'est sur ce qui produit le plus par rapport à ton leadership. Et ça, les pasteurs, nous devons souvent faire attention avec ça. Moi, je vois des pasteurs, parfois, ils ont des églises de 50, 60, 100 personnes, et souvent, par exemple, en Europe ou en Amérique du Nord, et ils sont là en train de tourner en rond du lundi jusqu'à la première réunion du mercredi soir. Puis après le mercredi soir, quand ils ont fait leur réunion, hop, ils tournent en rond encore jusqu'au dimanche où ils vont prêcher au culte. Ils perdent leur temps, ils ne gèrent pas leurs priorités. Leur priorité devrait être de savoir réellement comment ils peuvent développer leur église, leur ministère. Mais ils attendent que les choses se passent. Et ils ne font rien, ils attendent. Tu dois travailler efficacement. Ou alors ils s'intéressent à des choses qui finalement ne vont pas produire dans leur ministère. Ça aussi c'est tout à fait classique. Par exemple, il y a des gens qui courent de séminaire en séminaire en séminaire en séminaire. Leur priorité, c'est ça. Ou alors, des pasteurs, par exemple, qui partent, je ne sais pas, ils sont partis 6 mois de leur église. Tu ne pars pas 6 mois de ton église. Ben, vous savez, rarement, je pars 2 week-ends. Là, vraiment, j'ai fait un effort. Mais en général, je ne pars jamais plus d'une semaine de mon église. Parce que là-bas, il y a des priorités que je dois gérer. C'est vrai que là, je n'ai pas d'institut biblique, mais quand j'ai l'institut biblique, moi, je travaille tous les jours. Tous les jours, je bosse. Tous les jours, j'enseigne, je prêche, etc., etc. Parce que ma priorité, c'est de m'occuper du peuple que Dieu m'a confié au Burundi. Ça, c'est ma priorité. Ma priorité, c'est de m'occuper d'enseignement aussi. Et j'y consacre du temps régulièrement. Et en dehors de ça, bien sûr, je peux venir faire des séminaires, mais ce n'est pas ma priorité de faire des séminaires. Ce n'est pas ma priorité. Je viens bénir le peuple de Dieu quand vraiment je le ressens et que je dois venir, mais ça ne va pas être ma priorité. Et il y a des gens, vous savez, ils commencent à... Ils vont dire, ah, un jour, j'ai invité un dimanche un prédicateur qui était du Rwanda et il a commencé à nous parler pendant 20 minutes de son voyage aux États-Unis. Je lui ai dit, mon frère, pourtant c'est vraiment un garçon que j'aime bien. C'est vraiment un gars qui a un potentiel super, mais je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, je te donne 50 minutes ou plus pour prêcher. Pendant 20 minutes, tu nous racontes que tu as été dans tel pays, que tu as été aux États-Unis, dans tel état, et qu'après tu as été là, que tu as été là. Je lui dis, c'est pas ça. Je lui dis, tu perds ton temps là. La priorité, c'est quoi? C'est de nourrir le peuple de Dieu. C'était pas de nous raconter. Il y a des pasteurs comme ça. Ils vous racontent leurs histoires. Ah, j'étais là, j'ai rencontré un tel, et il met un, et puis on était dans sa belle maison, blablabla. On s'en fout. On est là pour écouter la parole, frères et sœurs. Soyons clairs. Ça, tu le dis à un ami. Mais quand un pasteur raconte du baratin pendant des heures, c'est pas la priorité. Les gens sont là parce qu'ils ont besoin d'être nourris. En tout cas, avec moi, soit on est sérieux, les gens sont là, ils ont soif, soit je préfère partir. Et ça me gêne pas de partir. Je veux pas perdre mon temps. Ou avoir des soi-disant priorités, alors que ça va pas être productif, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça ne m'intéresse pas. La productivité est quelque chose qui est important, vraiment important. Alors, comment les gens organisent leur temps en général? Ils organisent leur temps de la façon suivante. D'abord, avec l'urgence, ce qui est urgent. Les gens organisent leur temps de 5 manières suivantes. D'abord, avec l'urgence. Et particulièrement un leader. Un leader, en général, l'urgence, c'est les gens qui viennent vers le leader et ils pensent que c'est le bureau des plaintes. Ils arrivent pour se plaindre. Et je vous dis, un leader doit faire attention dans ce domaine-là. Les choses urgentes, parfois, ne sont pas urgentes. Et un leader doit discerner ce qui est urgent de ce qui n'est pas urgent. Ça peut être urgent pour une personne, mais ça peut être pas du tout urgent pour le leader. Et je vous dis, ces choses-là sont des bouffetants en leadership. Mais souvent, les gens commencent par l'urgence. Ensuite, le déplaisant. Le déplaisant, ce qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Et souvent, les gens, quand ils se disent, voilà, bon, j'ai ça à faire, ah, mais ça, vraiment, j'ai pas envie. Allez, je vais le faire en premier, comme ça, je serai débarrassé. Un leader doit faire attention. C'est pas comme ça que tu dois forcément raisonner. Il y a des fois des choses que tu n'aimes pas faire et qui sont pas forcément quelque chose qu'il faut faire en premier. Parce que des fois, tu t'embarques dans des activités, tu sais quand tu commences, mais tu sais pas quand ça va se terminer. Et d'un seul coup, il y a d'autres choses qui sont vraiment importantes au niveau de tes priorités. Donc, tu dois faire attention. Il y a des fois des choses qui sont déplaisantes que tu dois abattre directement. Tu dois achever tout de suite. Mais il y a d'autres choses qui sont déplaisantes que tu ne dois pas achever tout de suite, mêler en deuxième, troisième ou xème position dans tes priorités. Ensuite, l'inachevé. L'inachevé. Parfois, à la fin d'une journée, on n'a pas à terminer ce qu'on avait commencé. Et le lendemain, on se dit, ah, comme je n'ai pas fini ça, je vais commencer par cela pour terminer ce que je devais faire hier. Pas forcément. Parce que des fois, ce que tu as à faire aujourd'hui, c'était planifié, c'était vraiment sur ton agenda, et c'était quelque chose d'important. Et finalement, c'est ce qui va. Tu vas faire ce que tu n'as pas fini la veille au détriment de ce qui était important, une priorité importante de la journée, quand tu commences ta journée. Fais attention à ça. Parce que des fois, on se fait avoir dans ces choses-là. Vous savez, souvent, le problème, c'est qu'on est envahi par tout un tas de choses. Notre vie est faite d'occupations. Et maintenant, il va falloir trier ces occupations par rapport au jour qui se lève, par rapport à la période dans laquelle tu te trouves. Si tu sais faire ça, tu vas vraiment réussir. Ensuite, le non accompli. Le non accompli. En fait, c'est des trucs qui sont sans valeur, mais auxquels on passe tellement de temps. On est là, ça vaut rien, mais on va quand même y passer une heure ou deux. Et on aura bouffé une heure ou deux de notre temps. Vous savez, parfois, il y a des discussions. Moi, quand je suis en entretien, par exemple, je fais gaffe à ne pas rester 3 heures avec une personne. J'essaye de rester 30 minutes avec une personne. Sauf si j'ai un peu de temps et que je vois que ça peut se terminer en discussion, etc., etc., parce que ça m'intéresse de connaître les gens, de découvrir ce qu'ils font, etc., etc. Mais en général, quand je suis en entretien pastoral, j'essaye de faire des segments de 30 minutes. C'est difficile à respecter, mais j'essaye de le faire. Parce que je me dis qu'en 30 minutes, j'ai le temps si on va. Vous savez, il y a des gens qui sont bizarres. Quand ils sont en entretien pastoral, ils vous racontent des trucs inutiles. Alors au bout d'un moment, il faut leur dire, ok, vous êtes venu pourquoi exactement me voir? Parce que pendant une demi-heure, ils vous racontent qu'avant d'arriver ici, ils avaient prié et que quelqu'un sur la route leur avait téléphoné, qui s'appelle Jean-Marc. Tu ne connais pas Jean-Marc, mais c'est pas... Et ils sont blablabla, blablabla. En fait, vous savez, parfois, nous les pasteurs, on nous prend pour des psychologues. Je vous assure. Et il faut être clair. Il faut dire aux gens, mais oui, finalement, pourquoi tu es venu me voir là? Parce que vous avez passé 30 minutes avec la personne et vous a raconté tout un tas de baratins inutiles. Un bouffe-temps. Vous voyez? Futile. Et puis même des fois, toi, en tant que leader, tu vas commencer à passer ton temps, à perdre ton temps dans des futilités. Vous savez, la Bible condamne beaucoup le fait que nous nous attachions à des choses futiles. Les choses futiles, ce sont des choses inutiles, des choses qui ne portent pas de fruits dans nos vies. Alors quand tu as 20 ans, aller discuter, aller faire un truc, ça me fait penser à Bujumbura, souvent il y a des gens comme ça, je rigolais, un jour j'étais dans un quartier, et j'étais chez des gens que je connaissais, dans une maison, et puis je voyais défiler des jeunes comme ça, des jeunes qui arrivaient. Alors, vous savez, au Burundi, quand vous arrivez dans quelque part, vous devez serrer la main à chaque personne. Je ne sais pas si vous faites ça à Kinshasa, mais là-bas, obligatoirement, c'est une marque de politesse. Alors, je voyais quelqu'un qui débarque, alors il serre la main, etc. Il s'assoit dans le canapé, 5-10 minutes, un quart d'heure, il raconte quelques trucs, il se lève, il salue les gens, il part. Et puis quelqu'un d'autre arrive et il fait la même chose. Et quelqu'un d'autre arrive, il fait la même chose. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a des gens comme ça qui passaient leur soirée à un quart d'heure ici, un quart d'heure ici, un quart d'heure ici, pour dire qu'ils étaient très occupés pendant la soirée. Ils n'ont rien fait. Il y a beaucoup de gens qui ne font rien de leur vie. C'est triste. C'est une priorité de rien faire dans ta vie. Non, fais attention à ça. Ensuite, la cinquième façon de gérer, et ça c'est la meilleure, c'est mettre ses priorités en ordre. Mettre ses priorités en ordre. Ça c'est très important. Donc tu fais en premier ce qui doit être fait en premier. Ça c'est vraiment le leader qui produit. Il fait attention. Il n'est pas là en train de faire les choses urgentes en premier. Il n'est pas là en train de faire les choses déplaisantes ou l'inachevé, ce qu'il n'a pas fini la veille, etc. Ou de tourner en rond à faire des choses qui finalement prennent du temps en disant qu'il est ultra occupé alors que finalement il produit strictement rien. Mais le bon leader, il gère selon le cinquième point. C'est-à-dire, il fait gaffe. Il regarde ses priorités. Et il met ses priorités en ordre, il met l'ordre divin dans sa vie, voilà, tout simplement. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour le Seigneur que tu dois faire. Et là, tu gères tes priorités. Quand tu fais ça, tu mets de l'ordre dans ta vie et tu vas être productif. Allez, rapidement, le dernier, cinquième grand point. Notez que les bons leaders mettent des gens dans des responsabilités où tout le monde gagne. Les bons leaders mettent des gens dans des responsabilités où tout le monde gagne. Il y a quelqu'un qui a dit que 20% de notre temps produit 80% de nos résultats. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des spécialistes, je ne suis pas un spécialiste. 20% de notre temps, là où nous concentrons sur des choses, 20% produisent 80% de nos résultats. Donc ça veut dire que 80% de ton temps ne produit que 20% de tes résultats dans la vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Il y a une vérité dans cela. Il y a beaucoup de choses où nous passons du temps qui ne produit rien. Mais il y a aussi des choses où des fois nous ne passons pas trop de temps qui produit un maximum dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention là où tu vas te focaliser. Vous vous rappelez que Jésus a passé la majorité de son temps a formé qui? A formé qui? Les disciples. Mais plus précisément, Jésus a mis la priorité sur qui parmi ses disciples? Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez, Jésus fonctionnait en priorité relationnelle. Il avait des disciples, une multitude de disciples. Vous savez, autour de Jésus, il y avait différents types de foules, on pourrait en parler. Il y avait vraiment un cercle intime. Il y avait les disciples qui cherchaient, d'autres disciples qui cherchaient vraiment à marcher avec le Seigneur. Et puis, il y avait aussi les gens qui n'étaient là que pour voir, les curieux, ou pour simplement pomper quelque chose de Jésus. Il y a beaucoup de ces gens-là qui s'intéressent à l'évangile pour pomper quelque chose. Une fois qu'ils ont leur bénédiction, ils partent. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux. Oui, c'est les 10 lépreux, c'est ça. Il n'y en a qu'un qui est revenu. Les autres, ils ont pris ce qui les intéressait, ils ont pris leur guérison et ils ont dit « bye bye Seigneur ». Vous savez, les foules qui nous entourent, il faut savoir les discerner. Jésus s'est concentré particulièrement sur 3 personnes. 12, oui, mais surtout sur 3 parmi les 12. Pierre, Jacques et Jean. Il avait des priorités. La priorité, c'était de former particulièrement le petit noyau au sein du plus gros noyau. Donc, trouver les bonnes personnes et les mettre au bon endroit, c'est une priorité. Comment trouver les bonnes personnes? Il y a 6 tests pour trouver les bonnes personnes où vous devez focaliser vos priorités. L'investissement, vous ne pouvez pas le faire sur tout le monde en profondeur. Mais il y a des tests, des critères d'examen qui vous permettront de trouver les bonnes personnes sur lesquelles vous devez focaliser vos priorités. Donc des gens à qui vous allez déléguer des tâches qui vont vous permettre, vous, de vous focaliser sur ce qui est le plus important dans votre vie. D'abord, il vous faut des personnes qui ont une certaine influence. Donc les gens que vous allez dénicher, à qui vous allez déléguer des priorités pour vous concentrer sur vos priorités les plus importantes. D'abord, il faut que ce soit des gens influents, c'est-à-dire des gens qui vraiment sont là et qui ne sont pas solitaires, mais qui ont une certaine influence dans votre organisation. Ensuite, des gens qui ont de fortes relations avec les autres, fortes et bonnes relations avec les autres. Donc, le numéro 2, c'est le test relationnel. Premier, c'est l'influence. 2, c'est le relationnel. Parce que si vous déléguez des priorités qui, pour vous, ne sont pas des priorités numéro 1 dans votre vie, vous devez le déléguer à des bonnes personnes. Donc, des personnes d'abord qui ont de l'influence. Des personnes aussi qui sont relationnelles, qui ont des bonnes relations. Pas qui sont conflictuelles. Parce que si vous déléguez une priorité à quelqu'un qui est conflictuel, et cette personne, si elle vous met du désordre, vous allez encore être obligé de revenir là pour régler un problème qui a été généré parce que vous avez mis une mauvaise personne. Une personne qui est conflictuelle. Les gens conflictuels, écartez-vous-en. Ça, je vous le dis. En leadership, écartez-vous-en, ne les mettez pas tant qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes de caractère, ne les mettez pas dans des endroits de leadership. Ne leur déléguez pas des responsabilités, sinon vous allez avoir des problèmes. Ils vont vous créer plus de problèmes que résoudre des problèmes. Ensuite, la crédibilité, numéro 3, ce sont des gens qui doivent être crédibles. Parce que vous leur donnez des priorités à gérer, qui ne sont pas des priorités pour vous, je vous le rappelle, donc vous leur déléguez certaines priorités qui ne sont pas prioritaires pour vous. Et à ce moment-là, il faut que ces gens-là soient crédibles. Si vous mettez du désordre, ce sont des gens avec qui vous entendez des histoires, ça ne vous résoudra pas des problèmes. Ensuite, le test spirituel. Est-ce que cette personne vraiment est attachée au Seigneur? Ensuite, le test administratif. Est-ce que ce sont des gens organisés? Des gens qui ont du bon sens aussi. Administratif, donc organisés. Qui ont du bon sens. Si vous déléguez des priorités à des gens qui sont désorganisés, qui viennent jamais à l'heure, qui savent jamais tenir un rendez-vous, laissez tomber. Vous allez avoir que des ennuis avec ces gens-là. Et les gens qui étaient venus vous voir, qui n'étaient pas une priorité, un problème prioritaire à gérer, en tout cas pour vous en tant que leader, ils vont vous dire, mais pourquoi tu m'as donné cette personne? Ça fait 3 fois que je lui donne rendez-vous pour expliquer mon problème, il ne vient pas et il ne me téléphone même pas. Ou c'est quelqu'un qui est tellement mal organisé, je lui avais confié des papiers la dernière fois, et il a tout perdu, ou il ne sait pas où il les a mis. Vous voyez, des choses toutes simples. Ça, c'est important, d'avoir des gens sensés et bien organisés. Ensuite, le test de l'attitude, numéro 6. L'attitude. Et particulièrement, s'ils sont dévoués aux autres. Si vous déléguez vos priorités, il faut que ce soit des gens qui sont dévoués aux autres, qui veulent s'occuper des autres, donc qui ne sont pas égoïstes. Qui ne sont pas égoïstes.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.